autres. Bonne soirée. À demain, 7h45 dans le Pit Stop. 14h avec les demoiselles. Salut!
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 Bye!
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Uh-huh. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Lino Zambito est avec nous ce soir pour 60 minutes. On va en profiter pour placoter avec cet ex-entrepreneur, maintenant entrepreneur, mais ex-entrepreneur en construction qui a fait beaucoup jaser pendant la commission Charbonneau il y a de ça quelques années. Merci d'être avec nous, M. Zambito.
Bonjour.
Comment c'est au day-to-day à être Lino Zambito? Parce que vous êtes sorti un peu de l'anonymat là, depuis déjà quelques années. À chaque fois que vous passez quelque part, les gens vous reconnaissent. Ou il y en a d'autres qui vous regardent dans le rayon des fruits et légumes en disant « Il semble que je vous connais, vous!
» Oh, c'est sûr que ma vie a changé à tout jamais. Le monde me reconnaît, le monde m'aborde et tout ça. Mais je veux dire, avec le temps, ça s'est estompé aussi. C'est sûr que des grosses années après la commission, pendant 2012-2013, là, on était beaucoup dans les médias aussi. J'étais beaucoup dans les médias.
Ouais.
C'est sûr que le monde, là, oui, on m'aborde. Puis j'ai un restaurant aussi, fait que le public sait qui je suis. On jase, on échange. Mais tu sais, ça devient de la routine. Là, le monde veut juste échanger plus pour avoir ma façon de voir les choses, mes idées. Puis même moi, j'ai parti un podcast Code Z où je donne mes opinions, l'actualité politique, je commente. J'ai commenté le remaniement, plein de choses qui se passent d'actualité politique au Québec.
Lino Zambito, c'est un gars qui est né à Montréal, ça?
Oui, je suis né à Montréal. J'ai habité à Laval pendant 24 ans. Puis par après, je suis déménagé sur la couronne nord de Laval. Là.
Vous êtes devenu entrepreneur en construction. Pourquoi? Est-ce que vous avez étudié dans ce domaine-là?
Non, pas tout à fait. Moi, mon père et ma famille étaient dans la construction, sont arrivés d'Italie en 1956. Et ils ont commencé à travailler dans le domaine pour le CP dans le temps, le CN, ils allaient dans le port déneiger et tout ça. Peu à peu, mon père puis mes oncles se sont partis, une petite compagnie faisait du gazon, puis par après, ça a déboulé de l'asphalte, des entrées d'asphalte, puis peu à peu, ils ont grossi. Et moi, étant jeune et petit, mais je suivais tout le temps mon père, tu sais, des camions, des gros Tonka, comme on disait, c'était
ben
impressionnant.
Oui. Ben oui.
Fait que j'ai eu la piqûre de jeune. Mon père a insisté longtemps pour que j'aille dans d'autres domaines que la construction. J'ai fait mes études en droit que j'ai pas terminé par ailleurs parce qu'en 97, j'ai eu une opportunité puis je me suis impliqué là nouvelle compagnie qu'on a partie en 97 Infrabec. Donc je me suis hissé au sein de la compagnie puis j'ai commencé à œuvrer dans le domaine de la construction.
Vous êtes un fils d'entrepreneur, vous êtes devenu entrepreneur
oui.
Par la suite. Bon, vous avez eu une compagnie de construction vers la fin des années 90. Est-ce que vous faisiez du privé ou c'était du public à ce moment-là?
Je te dirais qu'à 98 % de notre chiffre d'affaires, c'était vraiment du public. Les appels d'offres, soit municipal, soit du ministère des Transports. C'était vraiment là, du public.
Est-ce que c'était du charabia pour vous à l'époque, justement, ces appels d'offres-là du public où on doit remplir plein de paperasses, puis on doit répondre à plein de questions, des fois qu'on se dit « mais pourquoi ces questions-là nous sont posées? » C'était-tu quelque chose de facile pour vous? Puis j'imagine que votre père vous a aidé aussi, là?
Bien, on avait, moi, j'étais dans mon équipe, j'avais des ingénieurs en génie civil qui, ouais. Eux, ont étudié là-dedans et tout ça. Fait que c'était des plans et devis que fallait étudier, fallait sortir nos prix à partir de ça. Donc, oui, les formulaires, c'était des prix unitaires et tout ça, là. Oui, il y en avait de la paperasse, mais c'était la façon de faire. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, là, après 13 ans que je suis sorti du domaine, je pense que c'est encore la même chose.
Puis à cette époque-là, est-ce que vous vous rendiez compte des fois qu'il y avait des ententes qui étaient prises avec les fonctionnaires versus les entrepreneurs pour faciliter les choses?
Bien, écoute, vite, tu te rends compte quand tu étudies des devis et des plans qu'il y a des trous dans les plans et devis, il y a des façons, on te demande l'information, des prix unitaires, puis les quantités que tu vois ces plans, puis au devis, c'est pas les mêmes. Donc, tu te rends compte qu'il y a des passe-passe, là, quelqu'un qui a de l'expérience, puis un ingénieur d'expérience, puis qui a œuvré dans le domaine, il se voit. Les passe-passe qui se font, sauf que quand tu n'es pas, comme on dit, tu n'es pas dans les secrets des dieux ou on ne t'a pas favorisé pour une telle job, c'est un risque de dire « mais je vais prendre le risque » parce que par après, si tu n'as pas d'aide du bureau d'ingénieurs conseils qui surveille les travaux, que les élus d'une ville ne sont pas d'accord, tu risques de trouver le temps long et manger tes bas.
Oui. Sachant que des fois, c'était comme un peu organisé, là, la patente, si vous n'embarquiez pas dans l'histoire, est-ce que vous auriez été capable d'avoir de la job quand même? Parce que quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, je veux dire, on a des employés qui sont sous notre gouverne, il faut les faire manger, ces employés-là, puis il faut trouver des contrats. Puis là, on s'aperçoit que, wow, il y a des affaires qui se passent dans ces contrats-là. Je me retire-tu? Je l'accepte-tu pareil? Si on n'accepte pas ça dans ce milieu-là, puis est-ce qu'on a de la job quand même?
Mais dans ces années-là, les années 2000, m'a dit, tout était pas mal organisé. Montréal, les jobs au ministère des Transports,
ouais.
La Couronne Nord avait ses entrepreneurs, la Ville de Laval avait ses entrepreneurs, la Couronne Sud de Montréal avait ses entrepreneurs. Donc, si tu refusais de participer, mais tu ramassais des pinottes. Un job qui avait été oublié d'être organisé. Fait que si tu voulais travailler puis pouvoir faire avancer ta compagnie, tu n'avais pas le choix de faire partie de ce système-là.
Puis est-ce que ça jouait au bras au travers des entrepreneurs? Quand un Lino Zambito arrivait avec une nouvelle entreprise, là, est-ce qu'il y avait des discussions à l'égard de ce que tu viens faire ici? Puis ça, c'est mon territoire. Parce que, tu sais, quand on parle de déneigement à la grandeur du Québec, là, il y a des endroits au Québec où c'est organisé par territoire, puis il y a une gestion des prix qui est faite. Puis si quelqu'un décide d'arriver dans le dossier du déneigement dans une nouvelle ville, puis il décide de couper les prix, bien, ça se peut que sa mécanique qu'il utilise soit brisée le lendemain matin quand il va se réveiller, quand il va y en avoir de besoin. Est-ce que ça jouait du coude à l'époque quand vous êtes arrivé?
Oh, absolument. Il fallait que tu fasses ta place, il fallait que tu insistes pour avoir ta part du gâteau. Il n'y a pas personne. Tu sais, il y a un nouveau joueur, tu enlèves de la business à ceux qui sont là déjà. Fait qu'il faut que tu fasses ton chemin, faut que tu joues du coude, puis faut que tu démontres que tu es sérieux, que tu es capable d'aller les chercher, les contrats. Puis à un moment donné, si tu n'as pas ta part de gâteau, mais ça ne s'organisera plus. Faut que tu tiennes ton bout, là. Faut que tu ailles à Quenzer.
Ouais. Oui. Puis j'imagine que, bon, votre père avait à Quenzer, fait que nécessairement, il devait avoir de votre père dans vos décisions. Mais ça aurait peut-être été plus facile pour vous d'être fleuriste, là. J'imagine qu'il y a moins de gens méchants qui sont chez les fleuristes, là.
Oui, c'est un autre domaine, mais je veux dire, c'était ça la construction dans le temps. Puis, m'a dit, aujourd'hui encore, pas sûr que ça a trop changé, mais en tout cas, la commission a mis la lumière sur les façons de faire, la commission Charbonneau. Il y a eu une accalmie, mais je pense que c'est parti plus belle là, aujourd'hui encore. Là.
Comment la commission Charbonneau est arrivée dans votre vie, M. Zambito?
Ben moi, comment que t'es arrivé dans ma vie, c'est pas compliqué. Les enquêteurs, moi j'ai été enquêté par, dans le temps c'était l'escouade Marteau, une division de la SQ qui enquêtait sur des contrats à Boisbriand. J'ai eu des accusations là-dessus. Puis ces enquêteurs-là avaient été prêtés à la commission Charbonneau, donc ils me connaissaient via les enquêtes qu'ils avaient faites. Dans la ville de Beaubriand. Fait qu'on m'a approché pour me dire que j'allais être assigné comme témoin. Donc, j'avais le choix de collaborer ou de jouer le jeu des témoins, là, un peu comme on voit ça clique, on s'en rappelle pas, puis on sait rien. Là. Mes principes de vie, c'est que le système de collusion, je ne l'ai pas inventé. C'est pas moi qui l'ai mis au monde. Oui, on a été des acteurs et des joueurs, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que la population pensait qui n'ont bénéficié. J'ai dit, moi, à partir du moment où le gouvernement Charest veut faire une commission d'enquête, mais la population a le droit de savoir qui n'a bénéficié, puis je ne jouerai pas les marionnettes ou je refuse de parler. Vous voulez une commission d'enquête, mais on va ouvrir les livres.
OK. Es-tu des gens qui voulaient vous empêcher de parler à la commission Charbonneau?
Pas vraiment. Écoutez, c'est sûr qu'on a froissé du monde. De toute façon, personne ne le savait que j'allais témoigner. Là. T'sais, c'est secret. Là. Moi, j'en parlais pas. J'ai été assigné le 27 septembre 2012, puis le monde m'a vu la face à la télévision. Fait qu'à partir de là, j'étais pour quelques semaines, parce que j'ai quand même témoigné pendant 8 jours sur une échelle de 3 semaines, parce qu'il siégeait 4 jours semaine, il y a eu une semaine de relâche, puis pendant tout ce temps-là, j'ai été sous protection policière, donc il n'y a pas personne qui est en mesure de me parler ou de m'approcher ou quoi que ce soit, donc à part ma famille, donc non, j'ai témoigné librement.
Aviez-vous eu peur pour votre vie? Parce que là, votre vie allait changer du tout au tout. Là. Vous étiez sous serment, vous deviez dire la vérité. Ça ne devait pas être évident. Puis vous avez dit des choses, des fois, qui pouvaient déplaire à certaines personnes parce que la mafia est impliquée là-dedans. Là. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie?
Bien, c'est sûr qu'on devient craintif, on a peur. C'est, on joue dans les lignes majeures. Là, on dénonce pas un vol de bicycle au coin de la rue. Là. Ouais. On dénonce un système qui est en place depuis des années. Puis ce système-là, veut pas. Il n'est pas juste au Québec. C'est partout en Europe. Les multinationales, de la collusion, de la corruption, il y en a partout. Donc, oui, il y avait une crainte, mais... Moi, j'ai eu comme principe de dénoncer un système, de m'attaquer à un système. C'était pas, je ne m'attaquais pas à des individus directement. C'est sûr qu'en élaborant puis en témoignant sur des faits et des choses vécues, il y a des noms qui sortent. Mais mon but, c'était pas de rendre un individu ou une personne coupable de tout ça. J'ai dit comment le système fonctionnait. Les joueurs, on m'a demandé, les joueurs impliqués, puis par la force des choses, on n'a pas eu le choix de les nommer.
Vous avez tellement rendu une fière chandelle à la commission Charbonneau au public que même la commissaire Franche Charbonneau avait pris la peine de vous remercier pour le témoignage que vous aviez fait. Mais n'en demeure pas moins que vous avez perdu gros à la commission Charbonneau. On aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines secondes. Mais la mafia, vous approchez comment la mafia? Comment la mafia approche un Lino Zambito?
Ben, la mafia approche pas. Il y a des territoires qui sont contrôlés par eux dans la construction, puis ils ont leurs hommes de terrain. Fait qu'une fois que tu as ta part de gâteau, tu fais affaire avec eux, tu fais partie du groupe d'entrepreneurs, puis tu payes tes redevances. Puis, tu sais, c'est pas du monde que tu vois tous les jours quand il y a des litiges quelconques, mais ces gens-là s'organisent pour régler les litiges. Souvent, c'est du tiraillement qui veut tel contrat ou pas, mais ils ont les hommes de terrain, puis eux, tu sais, t'es connais, tu sais c'est qui, t'es croise, mais tu deals pas avec eux directement. Là. C'est un peu... On pourrait dire, là, c'est vraiment de la poutine de terrain qui se fait par souvent leurs hommes qui les représentent, qui sont eux-mêmes des entrepreneurs. Fait que, tu sais, ça se règle entre entrepreneurs.
OK. Puis est-ce que votre père vous avait prévenu qu'à un moment donné, ça allait arriver, que si vous voulez du territoire, ça se peut qu'il y ait des gars qui viennent vous voir pour vous dire, ben ça va prendre tel montant?
Ben, tu sais, dans le temps, là, mon père, c'était. De la collusion, quand lui œuvrait, c'était occasionnellement. En 2000, comme je vous dis, c'est devenu systématique. Tout le monde a vu, les fonctionnaires, les politiciens, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'argent à faire en demandant des cotes que chaque job s'organisait. Fait que c'est devenu un système organisé. Fait que là, t'as pas eu le choix. T'allais n'importe où. T'as tout le temps quelqu'un qui voulait la cote, que ce soit un bureau d'ingénieur, que ce soit des politiciens. Fait que, comme je te dis, à partir des années 2000-2001, c'est devenu un système organisé. Puis c'était au-dessus des sous-traitants, au-dessus des fournisseurs de matériaux. Tout le monde était au courant. Fait que moi, à un moment donné, je me disais, ça ne durera pas des siècles parce que tout le monde le sait, ça va péter à un moment donné. Chose que est arrivée dans les années 2008-2009 quand les journalistes ont commencé à enquêter, les journalistes d'enquête et tout ça. Puis pendant des années, il y a du monde qui ont dénoncé ça à la SQ. La SQ prenait les dossiers, mettait ça dans les tiroirs. Ils ne savaient pas c'était quoi de la collusion. Là. Ils ne voulaient pas toucher à ça. C'était trop compliqué. La collusion, c'est une entente virtuelle entre entrepreneurs. Là. Je veux dire, c'est une entente non écrite, verbale. Fait qu'essaye de prouver ça. Il faut vraiment que tu mettes des experts qui vont mettre un genre de tangente, des contrats, le taux de profit. Il y a une étude à faire. C'est compliqué. Là. C'est un crime économique qui est compliqué à prouver. Si tu n'as pas des témoins qui viennent témoigner de ça, la commission a fait ça parce que tu es obligé. Dans les faits normaux de le cours de la vie, tu es accusé, tu n'es pas obligé de témoigner. Fait que, tu sais, il faut que tu viennes prouver ça. La commission a fait qu'en t'enseignant puis en amenant du monde à dénoncer le système, on comprend mieux le système. Sans ça, c'est très dur à démontrer ce système-là.
Puis les cotes à la mafia, on versait ça de quelle façon? C'était-tu en argent? C'était-tu dans des sacs bruns? Ça fonctionne comment?
C'était du comptant. C'était deux et demi comptants remis à leurs représentants, puis eux les acheminaient à qui de droit. C'était la même chose pour les partis politiques à Montréal. C'était 3 % comptant, puis eux les envoyaient aux financiers, aux gens qui s'occupaient des finances des partis politiques. Ouais. C'était tout le temps comptant. Fait que, tu sais, à un moment donné, oui, eux sont blindés, ils ramassent l'enveloppe, que ce soit les politiciens, les bureaux d'ingénieurs. Nous, l'entrepreneur, c'est nous qui devons aller acheter le cash parce qu'on travaillait pour des municipalités. Il n'y a pas personne qui nous payait en cash. Fait qu'il y avait de la fausse facturation qui devait se faire pour acheter du cash. Là, quand Revenu Québec, Revenu Canada partait après nous, c'est nous qui se faisait taper dessus. Fait que, tu sais, on avait le dos large, mais on était, comme je dis, souvent la marionnette puis les outils pour bien du monde. On satisfaisait bien du monde.
Vous étiez dans le système, puis le système est au courant de ce que vous faisiez, puis en profitait en plus. Puis par la suite, il y a une autre main qui tentait de vous reprendre l'argent qui n'avait pas été, perçu. Ça devait être assez particulier. J'imagine que dans votre livre « Le témoin » que vous avez vous-même écrit, ou encore dans vos podcasts comme « Code Z », vous en parlez une fois de temps en temps. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la commission Charbonneau, tout le monde qui avait à payer a payé ou c'est certains intervenants qui en ont vraiment payé le prix? Puis je pense que vous faites partie de ceux-là là, qui ont été pris, puis les autres, ben, ils vont s'en sortir, puis jamais on entendra parler de ces individus-là.
Mais tu sais, la commission, c'était de dénoncer un système, de le mettre sur place, ouais. De démontrer comment ça fonctionnait. Le gouvernement a mis sur place l'UPAC, qui, eux, devaient prendre l'information, mener des enquêtes, puis envoyer comme Lafrenière, le commissaire Lafrenière se plaisait très bien à dire envoyer les vrais bandits en prison. Mais on s'est rendu compte que le Parti libéral, dans le temps, ont mis des hommes de main là, puis se sont assurés que les enquêtes foirent toutes, puis rien se passe. Il y a quelques individus, quelques ingénieurs, quelques élus qui ont payé. On n'a jamais atteint le niveau politique provinciale, on le voit très bien, ils s'en sont tous tirés, que ce soit par l'arrêt Jordan, par le fait que l'UPAC a fuité l'information, les enquêtes des médias, il y a eu des arrêts de procédure et tout ça. Donc, l'UPAC n'a pas fait sa job, puis on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 2 semaines, il y a eu après 7 ans d'enquête du BEI, directeur des poursuites pénales et criminelles du Québec a décidé de ne pas porter d'accusation contre les hauts dirigeants de l'UPAC. Donc, ça a fini en queue de poisson. Puis ces gens-là, tu sais, aujourd'hui, quand je vois certains politiciens dans les médias à faire la morale à tout le monde, ils ont eu un break. Leurs amis les ont aidés. Puis ils n'ont pas été trouvés innocents. Les procédures leur ont sauvé le derrière. Puis ça se permet de faire la morale à tout le monde. Moi, qu'on m'aime la face ou qu'on m'aime pas la face, j'ai pas de trouble avec ça. Mais j'ai subi, j'ai assumé, j'ai payé ma peine. Ma peine à la société est payée. Je dois plus rien à personne. Puis aujourd'hui, je suis dans les médias, comme j'étais avec toi, puis je fais mes affaires pour m'assurer que le peuple, les gens du Québec, on s'endort pas au gaz comme on l'a fait pendant des années, puis qu'on pose des questions à nos gouvernements, qu'on les garde un peu sur le qui-vive pour qu'on n'oublie pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que le système n'est pas disparu de collusion de corruption. Ouais.
C'est votre façon à vous de redonner, parce que bon, vous avez à vous avoir fait des choses qui n'avaient pas de bon sens, vous avez payé votre dette à la société, mais le fait est que vous continuez d'en parler, vous avez votre podcast, vous avez écrit votre livre, vous faites ce type de podcast-là avec moi, qui passe à Montréal et qui passe à Québec aussi. C'est de dire le plus possible comment ça fonctionne. Vous vous sentez un peu redevable envers les contribuables, c'est pour ça que vous donnez l'information?
Bien, redevable, non. C'est parce que je veux que le monde, ce soir, on prenne conscience que nos politiciens, là, ils ont le champ libre. Tu sais, au Québec, on chiale pendant 48 heures quand on n'est pas d'accord, puis on oublie de suite. On laisse, on passe à autre chose. Tu sais, je le dis souvent, là, faut que les Canadiens là, de Montréal collent 4-5 victoires de suite, là, puis on oublie là, qu'est-ce qui s'est passé la veille. Fait qu'à un moment donné, là, les gouvernements le savent, tout ça. Ils sont au courant. Fait qu'il n'y a pas d'imputabilité. On l'a vu, là, on le voit avec sa clique. Il n'y a pas personne qui est imputable. Les gouvernements ne sont pas imputables. Les ministres ne sont pas imputables. Les hauts fonctionnaires, personne n'est imputable. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a calé les shots, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job, puis je pense qu'on est rendu à un moment donné où est-ce que ça prend du monde qui paye pour quand quelque chose ne fonctionne pas au Québec. On s'envoie toute la balle, ça coûte de l'argent, il n'y a jamais personne de responsable. Fait que moi, mon but, c'est de dire aux gens, posons-nous les questions, mettons le gouvernement sur le qui-vive, puis mettons de la pression pour que les gens y aillent au moins de l'imputabilité. T'sais, avec sa clique, on a remercié Bonnardel. Bonnardel a été là, je pense, l'équivalent de 2 mois responsable de sa clique. Celle qui menait qui tirait les ficelles, c'était Geneviève Guilbeault. Puis malheureusement, elle n'a pas été démise de ses fonctions. Puis ça laisse un goût amer à la population parce que, tu sais, le gouvernement, M. Legault, avait promis qu'on ferait un gros remaniement. Il voulait donner un nouveau souffle à son gouvernement. Mais en bout de ligne, il n'a pas fait grand-chose. Là. Les ministres clés, ils sont tous là. Il y a part de n'avoir sorti un ou deux. Là, les gens qui devaient répondre sont encore là. Ils ont changé de ministère. Fait que comment tu veux que la population ait confiance en nos gouvernements en plus? Ouais. Tu regardes un peu au fédéral, hier, on annonce un déficit de 100 milliards. Là. C'est pas 100 piastres, 100 milliards. On le dit avec un sourire. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'ils soient imputables. Il faut que la population se mobilise, on pose les questions, on veut savoir pourquoi ça coûte aussi cher. Tu sais, le système de santé, la CAQ, ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils ont promis de mettre de l'ordre. À la 8e année qu'ils entament de leur mandat, ça va pas mieux. Là, c'est la faute des médecins. C'est tout le temps la faute de quelqu'un. C'est jamais la faute des gouvernements. Donc, à un moment donné, comme population... Moi, là, je dis tout le temps, si je réussis par mes interventions, par mon podcast ou en allant à des podcasts comme le tien, à aiguiser la population juste à se poser les questions puis à se dire jusqu'où qu'on est prêt à se faire fourrer par cette bande d'incompétents-là, j'aurais réussi.
Est-ce qu'à la commission Charbonneau, M. Zambito, est-ce qu'on vous a briefé sur votre témoignage? Y a-tu des choses qu'on vous a dit? Ben, regarde, on va te poser telle question, mais on aimerait que ce nom-là sorte pas. Est-ce que.
Non.
Jamais?
Non, 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 non. Ça, il n'y a pas eu aucunement de comment qu'on dit, là.
Un
non, on n'a
briefing.
pas de briefing ou de ça, comment qu'on dit, là, quand on demande un accès à l'information, là, puis on cache l'information, il n'y a eu aucunement de ça. Il y a des sujets que moi, j'aurais aimé qu'on élabore plus, puis ils ne l'ont
Ouais.
pas fait. Le financement politique provincial. Quand moi je témoignais, on me disait ah, ça va venir, mais c'est jamais venu. Ça, ils l'ont protégé à leur façon. Moi, j'aurais été plus en profondeur.
C'était
Ben,
intentionnel de
moi,
leur part?
intentionnel, je ne peux pas prétendre,
Moi,
mais tu sais,
pense que oui, moi.
moi, j'aurais amené un Jean Charest, j'aurais amené un Mario Dumont, je les aurais amenés dans la boîte, là, tu sais, c'était eux les chefs des partis politiques. Ils savaient très bien qu'est-ce qui se passait, là, il fallait les amener, ils ne l'ont pas fait. Fait que, tu sais, ça laisse un goût amer à la population, là.
Le boss en personne, Jean Charest, qui ne s'est pas présenté à cette commission-là. Il y en a plusieurs qui l'ont eu sur le cœur. Puis je pense pas que ça allait aider Jean Charest de ne pas se présenter là. Il y aurait eu tout avantage à se présenter, je pense, puis répondre aux questions. Est-ce qu'à la suite de la commission Charbonneau, bon, la commissaire vous a remercié de votre témoignage en espérant que les choses changent pour ce qui est des prochains mois, les prochaines années. Pour vous, là, comment vous l'avez vécu l'après-commission Charbonneau? Parce que ça n'a pas été facile.
Non, mais c'est sûr que moi, après, j'ai fait face à la justice. J'avais mon procès dans Boisbriand. Où est-ce que j'ai décidé? Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de messages d'enquêteurs et de monde de me dire, je m'ai fait dire, Lino va en procès devant juge et jury. Et pour te garantir, on pense que tu as les chances d'être acquitté parce que j'étais crédible. Puis, tu sais, les accusations que l'UPAC ont mis contre moi, c'était cousu de fil blanc. Tu sais, à procès, là, je ne suis pas convaincu que j'aurais été trouvé coupable sur tout. Cependant, moi, j'ai quand même un principe puis une moralité intellectuelle qui me disait, tu ne peux pas aller devant une commission d'enquête, avouer un paquet de crimes de même. Puis après, t'en tirer sans aucune conséquence. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai fait mes études en droit, j'ai la conviction, je crois en la justice, fait que dans mon cheminement, j'ai décidé de plaider coupable à certaines accusations. J'ai eu ma sentence, je l'ai purgée, donc ça a été des années un peu difficile, mais j'ai passé à travers, j'ai écrit mon livre. C'est sûr qu'il y a tout le temps le jugement. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, tout le monde vous le vit, vous le vivez, là, les commentaires un peu gratuits. Oui, j'ai fait partie d'un système. Il y en a tout le temps qui ne m'aimeront pas la face. Ils vont me traiter de bandit, de ci, de ça. C'est leur droit. Moi, je pense que sans des témoignages comme du monde comme moi, comme Ken Pereira, comme d'autres personnes, des Annie Trudel, du monde qui sont venus à la commission, pas sûr qu'on aurait fait la lumière sur comment ça fonctionnait. Tu sais, aux États-Unis, des gens comme nous, on les utilise, le gouvernement les utilise, les emploie à déchiffrer puis à s'assurer qu'on fasse le ménage. Ici, au Québec, on a peur. On a peur parce qu'on ne veut pas faire le ménage. Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'on ne veut pas nettoyer l'appareil gouvernemental, on est des dangers. Moi, tu sais, j'ai tout le temps dit, à la ville de Montréal, aujourd'hui, ils sont empêtrés. Rien avance, c'est le free for all, mais jamais, jamais il fera appel à du monde comme nous. Tu sais, Pereira, depuis 13 ans, il ne peut pas travailler au Québec, il n'est pas capable de se trouver un job. Fait que le système est hypocrite, le système veut faire semblant de faire un ménage, mais il s'attaque à ceux qui veulent, qui collaborent à faire le ménage.
Puis, point de vue personnel, une fois qu'on a passé la commission Charbonneau, une fois qu'on a notre déclaration de culpabilité qui est mentionnée, on perd des amis, on perd des
Oh ben,
connaissances, on perd
mes amis.
de l'argent?
L'argent, oui, ça c'est sûr. Tout ce qui était dans le domaine de la construction, ça a tout parti. Mes propriétés que j'avais, les bureaux, l'équipement, ça a tout parti d'une faillite. Les amis, mais je peux te dire que le jour où est-ce que tu te fais arrêter, t'en as plus d'amis, là.
Ah
Puis,
non.
oublie ça, là. Il n'y a pas grand monde qui ose t'appeler ou whatever. Puis après mon témoignage de la commission, c'est pareil. Le monde, tu sais, ils ont tout peur, ils ont tout ci. Mais avec le temps, le monde revient poliment. Mais sauf que, tu sais, moi, j'ai une bonne mémoire. Puis je suis un gars qui se rappelle de qui était là quand j'avais besoin d'eux. Ils n'avaient pas grand monde. Fait que je suis poli avec eux. Je jase avec eux, mais tu sais, des amis, là, quand des situations de même arrivent, à part un ou deux, il n'y en a pas vraiment là, qui sont là pour toi. Là.
Est-ce que vous avez décidé de quitter Montréal ou vous êtes resté à Montréal pendant toutes ces années-là?
Ben moi, j'ai tout le temps habité la Couronne-Nord, là, comme je te dis. Fait que j'ai resté, je ne m'ai jamais caché. J'ai habité, je suis encore ici, puis... J'ai pas l'intention de me cacher, là. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai continué, j'ai essayé de faire ma routine. J'ai trois enfants qui étaient jeunes à ce moment-là. Ils ont fait leur vie, ils sont allés à l'université, au cégep. Ils ont, tu sais, comme père, là, le côté familial continue. Tu dois être là pour eux parce que c'est pas des moments faciles pour eux aussi, surtout quand tu as souvent des médias. Encadre comme tu peux. Puis mon ex-conjointe, elle a fait un travail extraordinaire avec les enfants. Ben, nous, on est pas mal souvent sur le gun, puis la pression est sur nous, mais tu sais, on a réussi. Puis aujourd'hui, tu sais, avec le recul, je suis très heureux comment que mes enfants ont passé à travers tout ça.
Parce que là, vous êtes ramassé. Bon, les maisons sont parties, l'entreprise, on doit fermer ça, les faillites qui embarquent. Vous avez commencé par quoi? Parce que j'imagine qu'entre les deux oreilles, ça ne devait pas être évident, là, mais on se rebâtit comment quand on est Lino Zambito puis qu'on a eu de la mauvaise presse pendant un certain temps?
Ben, écoute, j'ai eu des problèmes de santé aussi. Travers tout ça, en 2013, j'ai été opéré à cœur ouvert après la commission, 6 mois après. Fait que j'ai été, en bon québécois, sur le cul 1 an.
Ouais.
Le stress s'est attaqué à mon sternum. J'ai fait des péricardites et tout ça. La famille proche, ils m'ont épaulé, m'ont aidé. Puis peu à peu, mais j'ai repris le dessus. Je me suis lancé dans la restauration, comme je t'ai dit. Puis on se rebâtit tranquillement, pas vite. Puis, tu sais, il y a de la famille qui est là, puis qui sont là pour toi, puis il faut l'apprécier. Mais c'est pas évident, là, tu sais, c'est pas évident. Même encore aujourd'hui, il y a tout le temps le jugement, il y a tout le temps le risque réputationnel qui te suit et tout ça. Mais, tu sais, moi, à partir du mois de novembre de cette année, j'étais éligible à mon pardon. Je vais faire ma demande. Ça prend quasiment 10 à 12 mois pour l'avoir. Fait qu'en 2026, j'aurai plus de casier judiciaire. Oui, c'est dans la mémoire du monde. Mais tu sais quoi? Possiblement, je vais être prêt à me présenter aux prochaines élections provinciales. On ne sait jamais. Je dis ça en riant. Mais tu sais, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Puis oublions pas, là, tu sais, ici au Québec, on juge le monde facilement. Mais aux États-Unis, on a un président qui a un dossier criminel. Là. Ouais. C'est un criminel. Là. Il n'est pas mieux que moi, puis gère le pays le plus puissant. Puis le monde, il y a quand même qui le supporte, puis il se promène partout. On le laisse rentrer au Canada. Moi, je n'ai pas le droit de rentrer aux États-Unis. J'ai un gars qui joue au football aux États-Unis. Je n'ai pas le droit de rentrer là-bas, mais lui... Je pense qu'il n'a fait beaucoup plus que moi des crimes, puis c'est l'homme le plus puissant au monde. Fait qu'à un moment donné, il faut passer à autre chose. Ouais. Moi, j'ai assumé, puis tu sais, la vie continue.
Mais je pense qu'avec un waiver, vous pouvez aller aux États-Unis avec un waiver.
Veux-tu que je t'en compte une bonne? Ben, je l'avais, mon waiver.
Oui.
Je l'ai eu, je suis allé il y a 2 ans. Uh-huh. Depuis que Trump a pris le pouvoir, on me l'a enlevé en disant que j'aurais dû jamais l'avoir à cause de mes actes que j'ai faits. Un président comme Trump... Tu sais, la machine, là, on le voit, qu'est-ce qu'ils font avec les immigrés, puis tous les gens, là, ils font le ménage, ils ont barré. Il m'a été refusé. Je suis allé en appel, puis les gens qui s'occupaient de mon dossier m'ont dit « Ronge ton frein, puis attends juste qu'il passe ses 4 ans, puis il y a quelqu'un d'autre qui prenne la présidence, parce qu'il n'y a rien à faire avec ça. »
OK. Bien, voyez-vous, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Parce qu'avec un waiver, si vous l'avez déjà, ils ne vous l'enlèveront pas à moins que vous commettiez un autre crime. Mais quand vous dites...
Ah, mais peut-être c'est pas un droit. C'est pas un droit. Hein?
Non, c'est un privilège.
C'est un privilège pour eux. Moi, comme je vous dis, je l'ai eu. La première fois, on me l'avait refusé. La deuxième fois, je me suis présenté aux douanes en personne à Champlain. J'ai rencontré des officiers. Puis j'ai plaidé ma cause devant 3 officiers. Puis ils sont allés fouiller, là. Ils m'ont gardé là une heure. Ils sont allés fouiller à la commission Charbonneau. Ils ont même vu que la juge m'avait complimenté. Fait que ils m'ont demandé si je leur permettais de mettre une remarque pour les fonctionnaires. Ils l'ont fait. J'ai eu mon waiver. Mais l'année passée, au mois de novembre, je devais le renouveler. Fait que moi, je pensais que c'est comme renouveler un passeport. Il y a eu changement de garde aux États-Unis. Je peux te dire que ça a été refusé. Puis je suis rentré pendant un an aller voir mon gars jouer au football. Je rentrais le matin, je ressortais le soir. Pas de ticket, rien. J'allais voir mon gars, je ressortais, je traînais pas là. Puis c'est tout documenté, c'est tout. Ils ont refusé carrément en disant que j'étais un danger pour l'État américain. Je suis pas sûr que moi, je suis un danger. Je pense que leur président est plus grand danger que moi pour leur État.
Ben, anyway,
on passe à autre chose.
Ça, c'est votre opinion. Et pour ce qui est des élections, oui. Regardez le cas d'Alex Boissonneau actuellement dans Arthabaska. C'est un gars qui a été pris au sommet des Amériques et on pensait que sa gang allait être en train de fomenter un attentat au sommet des Amériques. Et Alex Boissonneau a demandé à un policier qui était sous couverture, « Est-ce que tu es prêt à transporter des cocktails Molotov, du matériel explosif? » Donc, puis là, aujourd'hui, il est rendu député. Là. Fait que tout est possible, M. Zambito.
Oui, mais tu sais, des erreurs de jeunesse, là, tu sais...
À 20 ans, c'est pas une erreur de jeunesse. À 20 ans, ouais, c'est un manque de jugement.
Tu sais, Gabriel Dandeau-Dubois, là, sérieusement, là, il a foutu le bordel au centre-ville de Montréal pendant un été. Ils ont brisé des vitrines, ils ont été là, puis il a été chef de parti. Tu sais, ouais. Si on veut aller là, là, faut à un moment donné, là, dans des manifestations, j'approuve pas leurs actes,
mais
là, que Boissonneau et tout ça. Mais tu sais, c'était... des erreurs, les gens ont le droit. Tu sais, si les gens n'ont pas le droit de se racheter, là, malheureusement, là, ils ont commis des erreurs, ils ont avoué. Moi, je dis, à partir du moment où est-ce qu'on avoue, on assume, puis on le dit, on passe à autre chose. Moi, quand j'ai de la misère, vous le voyez à Québec dans le moment, un Sam Hamad qui se présente à la mairie de Québec, puis j'ai pas peur de le dire. Tu sais, il a été dans le groupe Roche, les deux mains dans de la fraude, du faux financement. Ouais. Tous les dirigeants de Roche, France Michaud, elle a fait de la prison. Puis ça a été Marquis Vancôté, ça a tout fait partie de la même gang. Puis là, on dit, oh, j'ai eu un petit blanc. On a de la misère à avouer. La population au Québec pardonne, mais il faut assumer ses gestes. Si on a de la misère à dire... Tu sais, c'était la façon de faire. Le monde le comprend que dans la construction, les prêtres non, pour le financement, des chèques, tout ça, c'était la façon de faire. La loi a été mise sur place, on a corrigé la façon de faire, mais c'est sûr qu'il y a du monde qui n'ont bénéficié. Il faut arrêter de prendre le monde pour des imbéciles puis dire non, oui, le commissaire m'a blâmé, un petit blâme. Non, tu avais les deux mains dedans, assume-toi, avoue-les. Le monde va te pardonner.
Mais dans le cas de Sam Hamad, effectivement, il travaillait pour le groupe Roche, mais il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. Là. Mis à part sa très proche amitié avec Marc-Yvan Côté, qui a été sorti du Parti libéral du Canada parce que c'était pas nécessairement une bonne personne dans son entourage.
Mais Sam Hamad, là, juste pour ton information, il était ministre sous Jean Charest. Puis il y avait des mandats, comme tous les autres ministres, de ramasser 100 000, 100 000 avec les cocktails. Bon, ça a été prouvé à la commission Charbonneau comment ça se faisait. Donc, tu sais, on veut bien le protéger, le petit Sam, là.
Ah, moi, je protège
personne. Non, mais je te dis, là. Tu sais, ça a été démontré que les ministres avaient des mandats. Tu sais, comme Normando, c'est pareil. Tu sais, on l'a à Montréal à tous les jours, elle nous fait la morale. Faute de procédure. Ça a été parce qu'on a fuité, elle s'en est tirée à bon compte. Elle n'a pas eu un procès juste et équitable où est-ce qu'elle a été trouvée innocente. Ses amis de l'UPAC se sont assurés que ça foire. Moi, j'ai un peu de misère quand aujourd'hui, on a de la misère à avouer qu'est-ce qu'on a fait ou assumer. Puis on fait la morale aux autres. Fait que, tu sais, ça commence, ça part par là. Moi, je peux me permettre. Je le fais, puis j'ai pas honte de le faire. J'ai assumé mes gestes. J'ai fait partie d'un système. J'ai assumé, j'ai payé pour. Puis aujourd'hui, je commande, puis je donne mon opinion pour que le monde allume pour pas qu'on retombe dans le même système. Mais si le monde ne veut pas m'écouter, ils ont le droit de pas m'écouter, ils ont le droit de pas m'aimer, puis c'est bien correct, je vis bien avec ça.
Ce soir, on passe la soirée avec Lino Zambito. Encore beaucoup de placotage à faire après la pause, donc restez là. Puis en passant, by the way, un gros merci, M. Zambito, de faire partie de ce podcast-là qui va probablement faire jaser demain. J'ai hâte de rentrer à job pour voir qu'est-ce que ça va dire. Je peux vous dire qu'on va avoir beaucoup de commentaires à la station. On fait une courte pause et on vient.
Marceau le soir. Marceau le matin. Marceau le matin. Le matin.
Soleil qui se lève avec nous autres. Salut Soleil, salut les auditeurs, salut à tous ceux qui nous ont écrit entre 5h et 6h. Vous êtes de bonne heure à Québec?
Ok, oui.
C'est qui se passe?
Toi aussi, t'es de bonne heure.
Je pensais pas qu'il y avait de la vie avant 10h le matin. Avant, j'étais Marceau le soir. Après ça, j'ai fait Marceau le soir à 18h. Après ça, j'ai fait Marceau le midi. Après ça, j'ai fait Marceau le midi à 10h. Puis là, je fais Marceau le matin de 6h à 10h.
Ouais, fait que là, si on veut descendre encore, va vraiment falloir que tu fasses un show de nuit. Puis là, on va faire le tour.
Exactement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont à l'écoute, des amis, des auditeurs, des collègues de travail. On n'aura pas le temps de vous répondre aujourd'hui, j'en suis pas mal persuadé. Mais sachez que je lis absolument tout ce qui va passer. Puis je vous remercie d'être là. C'est une belle aventure qui débute.
Marceau le matin, tous les jours en semaine, 6h. Puis en rattrapage où, Marceau?
Ben, sur le blvd.fm.
Bravo!
Y'a rien là! C'était écrit sur la feuille!
102.1.
C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Korn le 19 septembre prochain au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquettes.
Obtenez 30 000 points PC Optimum à l'achat de 100$ ou plus de cosmétiques chez Pharmaprix. Une valeur de 30$. Jusqu'à jeudi, des conditions s'appliquent.
Tu penses t'acheter une voiture prochainement? T'en veux pas une neuve, mais une comme neuve? Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Va voir nos comme neuves au comme-neuve.com.
Hey, chez Québec Brou, là, le déjeuner signature, il est vraiment pas cher. Puis il est jusqu'à 14h, 5 jours sur 7. Ça fait que si tu passes direct sur tes deux œufs tournés bacon un mercredi, t'as jusqu'à 14h pour venir déjeuner avec nous autres. Pas pire, hein?
Québec Brou, Vanier, Charlebourg et l'ancienne Lorette.
Oh, shérif, c'est une sacrée monture que t'as là.
Merci, Billy.
Où est-ce que t'as dégoté une monture pareille?
Bah, chez New Look, ils sont tout plein de montures.
À monture!
La deuxième paire de lunettes est gratuite à l'achat de n'importe quelle marque chez New Look. Jusqu'au 5 octobre, des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Wouhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
Les 27 et 28 septembre prochains, participez aux portes ouvertes du Collège Saint-Charles-Garnier. Vous y découvrirez nos 12 profils d'études et notre nouveau pavillon sportif. Culturellement, athlétiquement, scientifiquement, le Collège Saint-Charles-Garnier, oui, absolument. Détails au collègegarnier.com.
Desvies, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à devirecrute.ca.
Salut, c'est PA! Hey, l'autre jour, en mettant mon vieux manteau, j'ai trouvé 10$ qui étaient restés dans mes poches. Hey, c'est-tu le fun, hein, de trouver de l'argent?
Ce mois-ci, chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, le taux de financement à l'achat du Kicks, du Rogue et de la Sentra est à 0%. À 0%, ça met de l'argent dans vos poches. Et quand on sait que Nissan est numéro 1 pour la qualité des véhicules neufs selon J.D. Powers, ben là, c'est le temps de quoi? On vous attend chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan.
Une sortie en famille? Ça vaut de l'art! Un moment pour soi? Ça vaut de l'art! Un automne flamboyant, ça vaut de l'art. Mais flâner dans nos salles aussi, ça vaut de l'art. Et de l'art, on en a pour tous les goûts au Musée national des Beaux-Arts du Québec.
Encore un texto pour un colis que j'ai pas commandé. J'efface.
Bon réflexe. Moi, ils se sont essayés par courriel la semaine passée. C'était crédible, mais l'URL avait aucun sens. J'ai pas cliqué.
Paraît que les fraudeurs peuvent imiter la voix de quelqu'un avec l'intelligence artificielle.
Ah, ben ça prend de l'intelligence naturelle pour déjouer ça.
Exact.
Les fraudes se multiplient. Multipliez les réflexes pour vous protéger. Visitez desjardins.com/sécurité pour apprendre à prévenir, reconnaître et signaler les fraudes.
Es-tu
Es-tu au courant? La Ville de Lévis recrute des chauffeurs opérateurs et des chauffeuses opératrices pour l'hiver. Tu as ton permis de classe 1 ou 3?
On t'offre un salaire compétitif et un horaire garanti de 40 heures toute l'année.
Postule maintenant au lévisrecrute.com.
Les soirées se rafraîchissent, Enviro-Confort vous accompagne avec des solutions complètes. Thermopompe performant, accumulateur de chaleur et même la géothermie pour un confort durable. Profitez dès maintenant de nos promotions spéciales de fin de saison. Vous chauffez encore au mazout? C'est le moment idéal pour faire le changement et obtenir vos subventions avant la date limite. Enviro-Confort, certifié choix du consommateur numéro 1 en chauffage et climatisation à Québec et Lévis.
Imaginez-vous au volant du tout nouveau Volkswagen Taos 2025. De la place pour toute la famille, une technologie intelligente à portée de main et surtout, une vraie soif d'aventure. Ce mois-ci, le Volksfest rend le Taos encore plus irrésistible avec 0% de financement jusqu'à 24 mois, 1 000 $ en boni Volksfest et 2 ans d'entretien prépayé. Un VUS polyvalent, des offres imbattables et la liberté de partir où vous voulez. Le Taos 2025 vous attend dès aujourd'hui chez Laval Volkswagen.
En attendant le rallye du 5 octobre, misez sur l'Encan en ligne pour soutenir la Fondation Santé Portneuf qui améliore notre santé. Profitez de l'eau des producteurs d'ici et contribuez directement au bien-être de notre région. Détails et inscriptions au santéportneuf.ca. Prendre soin de nous, chez nous.
Votre moyen de contraception est un atout. Femmes utilisant une contraception hormonale, participez à notre étude et recevez une compensation pouvant aller jusqu'à 10 500 $. Cineos.com.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Le 18 septembre, les condos locatifs L'Allier à Lévis vous ouvrent leurs portes en formule 5 à 7. Venez découvrir nos unités et notre lounge tout en savourant un verre de vin. L'occasion parfaite de découvrir un complexe d'exception au cœur du quartier Humano à Lévis. Rendez-vous sur votreallier.com.
Salut, ici Bob le Chef. On a lancé un défi à nos fans des médias sociaux. Créer une pizza pour le menu d'automne. Hey, on pensait avoir des jokes puis des vidéos de chats. Sérieux, on a eu une bombe. C'est comme si t'avais mis tout ce qu'il y a de bon dans la vie sur une pâte à PIDS. Puis avec le retour du pâté à l'oie qui réconforte encore plus qu'un texto de maman, mon burger bazooka qui frappe comme un bûcheron, puis le grill cheese cheesy bœuf qui est bien meilleur qu'une thérapie, c'est sûr que tu pogneras pas les blues d'automne. Normandin, ça fait plaisir!
Quelle belle journée pour venir essayer le superbe Kia EV9 chez Kia Lévis. Avec une autonomie toute électrique jusqu'à 491 km, vous roulerez avec le sourire. Grâce à un taux aussi bas que 2,99% sur 84 mois, le EV9 2026 Wind est offert à l'achat pour l'équivalent de seulement 219 $ par semaine. Passez vite chez Kia Lévis et venez essayer votre Kia EV9. Kia
Lévis. Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Lino Zambito est avec nous ce soir. Vous l'avez connu comme un homme d'affaires. D'ailleurs, c'est encore un homme d'affaires, mais on le présente souvent comme étant un ex-entrepreneur en construction. Lino Zambito qui a écrit un livre, Le Témoin, parce qu'il a fait partie des témoins à la commission Charbonneau. Et il est aussi celui derrière le podcast Code Z. Donc, on passe la soirée avec lui. Juste avant la pause, M. Zambito, vous avez dit que peut-être qu'en 2026, vous pourriez peut-être aller aux prochaines élections. Ce serait pour quel parti, M. Zambito?
La question, c'est qui veut de moi? Ils sont tous frileux. Tu sais, moi, je n'ai pas la langue dans ma poche. La ligne de parti et tout ça, là, j'ai bien de la misère avec ça. Là. On ne met pas un carcan sur la bouche. Là.
Actuellement, là, que... vous avez des partis qui sont dans le trouble. On a la Coalition Avenir Québec qui est dans le trouble. Peut-être qu'ils seraient prêts à vous prendre.
Moi, je pense qu'eux vont être rayés de la carte, là, à mon avis. Là.
Ben, c'est ça. Un bon chef qui sait comment ça fonctionne et qui veut empêcher les magouilles, je trouve que ce serait une bonne chose. On a Québec solidaire aussi qui est très bas dans les sondages, qui aurait peut-être besoin de quelqu'un d'un peu plus populaire comme co-porte-parole. On a le parti...
On va avoir des affinités, quand même.
Oui, on a le parti.
On peut pas juste aller... Tu sais, là, à un moment donné, si on se lance avec du monde qu'on n'a pas d'affinité, c'est comme de la prostitution. Fait que moi, je pense qu'il faut quand même connecter pour avoir un peu d'affinité. J'ai des principes de vie. Oui. Fait que là-dessus, tu sais, je dis ça en riant, mais on verra. D'ici un an, il y a bien de l'eau qui peut couler en dessous des ponts. On verra ce qui va se passer.
Parce qu'il reste un parti.
C'est long, un an en politique. Vous le savez, on l'a vu au fédéral avec Justin Trudeau puis le Parti libéral du Canada. On les comptait morts au mois de février, puis sont au pouvoir.
On a le Parti conservateur du Québec qui n'est pas très bien représenté à Montréal, M. Zambito. Fait que peut-être que vous pourriez approcher Éric Duhaime. Puis on a le Parti québécois qui a accepté Alex Boissonneau dans ses rangs, même s'il avait un passé assez particulier. Donc, tous les partis vous sont ouverts, M. Zambito. Tu
n'as pas nommé le Parti libéral du Québec. Je me demande pourquoi. Je pense qu'eux m'aiment pas trop. Hein. Ben... Je pense que quand ils me voient, là, mais c'est bien correct, c'est mutuel. Il y a des individus que je respecte énormément, là, des Marois Risky, je trouve que c'est une femme de calibre. Il y a du monde à l'intérieur du parti. Mais encore là, moi, c'est juste, c'est du nouveau sang qui sont là, puis ils sont là pour la bonne cause. Mais on n'a jamais voulu accepter qu'est-ce que leurs ancêtres ont fait. On balaye ça. Moi, j'ai un peu de misère qu'on vient commenter tout ce qui s'est passé à sa clique, puis on rentre dans la CAQ. C'est quand même eux qui ont donné les contrats à sa clique, le Parti libéral du Québec. Fait que, tu sais, c'est un peu d'hypocrisie qui me pue au nez un peu. Là. On le fait juste pour la clip média pour passer aux 18h ou aux 17h. À un moment donné, moi, je suis un gars de conviction. Puis si j'embarque avec qui que ce soit, avec quel parti que ce soit, c'est parce que j'ai la conviction qu'on peut changer les affaires, qu'on peut faire avancer le Québec. C'est mon but ultime, c'est de faire changer les choses.
Et nos Zambito s'est rebâti suite à la commission Charbonneau. Ça a pris quelques années. Vous avez eu des ennuis de santé. Vous nous en avez parlé dans le premier segment. Vous avez eu jusqu'à 3 restaurants de sushi. Là, maintenant, à ce qu'on me dit, vous occupez de celui de Repentigny?
Non, moi, j'ai complètement délaissé le domaine du sushi. Okay. J'ai un petit bistrot italien de quartier à Blainville. Ça s'appelle Bistro Etc. C'est un petit restaurant italien. On a à peu près 120 places. Puis je m'occupe de ça. C'est un restaurant de quartier qui dessert la ville de Blainville, Rosemère, Lorraine, Sainte-Thérèse, Boisbriand. Fait que c'est pas le centre-ville. C'est low profile, comme on dit en bon québécois. J'aime ça. Bien du monde que j'avais. J'ai déjà eu ce restaurant-là jusqu'en 2012. Je l'ai vendu quand mes problèmes sont arrivés.
Ouais.
Fait que je retrouve toute ma vieille clientèle qui viennent me revoir puis que je jase avec. Puis sérieusement, au début, quand je l'ai reparti, j'étais un peu réticent. Tu sais, puis la réception est bonne. Le monde, sérieusement, apprécie le courage que j'ai. J'échange avec eux. Puis 13 ans plus tard, je regrette pas du tout d'avoir pris en main ce restaurant-là.
Non, c'est ça. Mais vous vous amusez dans la restauration? Parce que ce que je voyais, pour ce qui est des restaurants de sushi, là, vous redonniez au CHSLD là, pour ce qui est des...
Oui, dans le temps, pendant la pandémie, on a été beaucoup actifs. On a été chanceux que le gouvernement nous ferme pas. On a été les restaurants take-out pour emporter. On a été vus comme des services essentiels. Puis, veut pas, tout a été fermé. Le monde était à la maison. Le monde avait le 2000 de PCU que le gouvernement leur donnait. Mm-hmm. Fait que le monde se gâtait. Pendant ces années-là, les take-out, les restaurants pour emporter ont eu une croissance fulgurante. Fait que nous, on a gâté. Là. J'avais une succursale à Cap-la-Madeleine, au Cap à Trois-Rivières. On a beaucoup, beaucoup donné aux infirmières et tout ça, même dans la région ici, Saint-Eustache, l'hôpital Lachenay. J'ai beaucoup pris soin de ces gens-là qui étaient sur la ligne de combat, qui combattaient la COVID et tout ça. On a été très actifs, oui.
Ça a-tu été compliqué de repartir en affaires? Parce que là, vous avez eu 3 restaurants de sushi. Là, maintenant, vous avez votre pub italien. Ça a-tu été compliqué? Parce que là, il faut que les gens recommencent à prendre confiance en vous.
Oui, mais ça, c'est... Le monde est pas si pire. Les pires, c'est les gouvernements pour les permis, les taxes, les banques, le risque réputationnel. C'est eux, là, ils te mettent des bâtons dans les roues. Là, c'est compliqué avec ça, les entités gouvernementales, l'hypocrisie qu'ils ont envers le monde. Puis moi, je le dis, puis je le répète, ma dette à la société est payée et tout ça. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Là. Malheureusement, là, la vie continue. Heureusement, la vie continue, mais on n'a pas tué personne. Je pense qu'à un moment donné, c'est un crime économique, puis il y en a partout. Puis si on s'attaquerait à vouloir faire le ménage dans tout où est-ce qu'il y a du crime économique, je pense que l'économie du Québec serait à terre. Fait que, tu sais, à un moment donné, la vie doit continuer.
On verrait-tu des politiciens et des ex-politiciens derrière les barreaux à ce moment-là?
Mais moi, je pense que le système... Tu sais, on a de la misère à envoyer des pédophiles, des agresseurs sexuels, ouais. Tu sais, derrière les barreaux. Fait que déjà, nos prisons sont pleines. Moi, je pense que, tu sais, la part quelques élus, le maire Vaillancourt à Laval, qui a fait du temps, ils ont tous eu de la prison à maison. Tu sais, pas sûr qu'on verrait trop de... Tu sais, notre système, malheureusement, il est hypocrite, puis on protège bien nos politiciens, là, à moins qu'on veut faire un petit exemple, là, puis on donne l'impression qu'on nettoie. Mais en général, notre système, il est très hypocrite.
Si vous aviez, on va terminer avec ça, M. Zambito, si vous aviez à faire un bilan de avant la commission Charbonneau versus aujourd'hui, y a-t-il des choses qui ont changé? Y a-t-il des choses qui se sont améliorées? Y a-t-il des choses qui ont empiré?
Bien, avant, c'était le free-for-all. Tout était permis, tout se faisait. Le financement des partis politiques était tout croche. Pendant la commission, on a mis la lumière dessus. Il y a eu une petite accalmie parce que le monde était stressé, le monde était nerveux. Du moment où l'UPAC n'a pas livré puis les enquêtes, à part quelques dossiers qui ont abouti, les autres ont tombé à l'eau, c'est reparti de plus belle. Moi, je vous prédis que d'ici 30 ans, il va y avoir une autre commission d'enquête sur l'industrie de la construction pour mettre encore en lumière qu'est-ce qui se passe. Les mœurs sont pas changées, c'est reparti de plus belle, puis ça continue. Fait que, tu sais, c'est à la population exiger de nos gouvernements qu'on mette en place des corps policiers, tu sais. On ne met pas d'argent. Comme je dis, c'est un crime qui est dur à prouver. On ne met pas les efforts. Puis on s'attarde à autre chose. T'sais. On ne veut pas nettoyer la machine. L'ensemble de la machine en bénéficie. On ne veut pas s'attaquer à ça. Donc, à partir de là, s'il n'y a pas une vraie... Tu sais, moi, là, je vous dis, quand la CAQ a pris le pouvoir... Vu Sonia Lebel qui était là, qui avait été procureure, j'avais énormément, énormément confiance à la CAQ qui s'attaquerait au problème. La CAQ n'a pas voulu aller jouer dans le caca des libéraux. Ils ont laissé aller les choses, puis ça a fini en queue de poisson. Tu sais, quand ils étaient à l'opposition, ils déchiraient leur chemise, posaient des questions, qu'eux allaient faire le ménage, qu'ils allaient faire ci, qu'ils allaient faire ça. Tous les hauts mandarins de l'État qui étaient là dans le temps du Parti libéral, ils ont pris, ils ont bougé à SAC, ils ont envoyé à Santé. C'est tous les mêmes hauts intervenants qui sont là puis qui font encore l'appui puis le beau temps. Fait qu'à partir de là, jusqu'à temps qu'on ne change pas les joueurs de la machine, le système va continuer. Puis dans 10 ans, on va se reparler puis on va parler des mêmes choses.
Là, c'est un peu plus personnel la question que je vais vous poser. Là. C'est quoi votre truc? Parce que je regarde le Lino Zambito qui était à la commission Charbonneau puis je regarde le gars qui est top shape en face de moi. Faites-vous votre marche matinale puis votre marche d'après-souper tout le temps? Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? On dirait un athlète olympique.
Moi, je vais vous dire honnêtement, si je serais menteur de vous dire que je m'entraîne pas du tout.
Non? OK.
Je fais attention à mon aliment. Je marche, mais pas de gym, pas de course. Je marche. C'est mon alimentation. Puis quand j'ai eu mes problèmes de santé au cœur... comme je vous ai dit, j'ai eu une période assez compliquée. Un an après des péricardites, j'ai été sa cortisone un an.
Ouais.
J'ai pris quasiment 100 livres. Puis là, le diabète, tout est parti, le cholestérol, la haute pression. Donc, en 2017, avec toute transparence, j'ai décidé d'avoir une chirurgie bariatrique. je l'ai fait. Puis ça, ça m'a permis de reprendre le dessus. J'ai perdu dans le temps 130 livres. Là, je n'ai repris peut-être une trentaine. Fait qu'en tout et partout, j'ai perdu mon 100 livres. Puis ça m'a donné plus de cholestérol, plus de diabète, plus d'haute pression. Fait que je prends quasiment plus de médicaments et tout ça. Fait que j'entretiens ça, mon alimentation, je fais attention. Je suis pas un curé, là. J'abuse de l'alcool de temps en temps, mais je fais attention à mon alimentation, puis c'est ça qui fait que je maintiens mon poids.
OK. Bien, visiblement, ça vous va bien parce que vous avez l'air en grande santé. Donc, peut-être qu'effectivement, on aura un Lino Zambito qui se présentera aux élections 2026. Le livre Le Témoin est toujours disponible?
Oui, en ligne, je pense qu'on peut l'avoir encore.
Puis on peut écouter votre podcast Code Z à quel endroit, M. Zambito?
Si on a une page, souvent Code Z sur Facebook, puis souvent les entrevues sont mises sur YouTube. Là, je suis posé d'en faire une. J'ai Claude Poirier, le célèbre 10-4. Claude...